Mes chères auditrices, mes chers auditeurs, bonjour. C'est grâce à Radio Cité, le poste de la jeunesse, le poste le plus aimé, que je vais présenter mes disques préférés.
Mais qui dit nouvelle musique dit aussi nouveaux réseaux, nouveaux circuits, nouveaux instruments. Sampleur, séquenceur, boîte à rythme, c'est avec ces instruments que l'on propose de la musique aujourd'hui.
Radio Campus. Préparez
vos... Attention. Certaines archives utilisées dans cette émission à des fins complémentaires et historiques contiennent un langage ancien aujourd'hui connoté à des idées racistes et offensantes. Celles-ci ne reflètent en rien les pensées des traducteurs. Nous invitons nos auditeurs et auditrices à faire preuve de discernement et de vigilance quant aux propos employés et vous souhaitons une agréable écoute.
Ok, ça tourne pour tout le monde. Tout d'abord, si vous me permettez, pourquoi n'êtes-vous pas astronaute à cette heure ?
Eh bien, je ne pourrais pas vraiment vous dire. Je n'ai pas de commentaire à faire sur cette question. Je ne sais pas.
Capitaine, avez-vous rédigé un rapport de 15 pages décrivant les pressions raciales exercées contre vous à l'école aérospatiale ?
Eh bien, je ne préfère ne pas répondre à cette question non plus. J'ai informé certaines personnes du département de la Défense de certains événements pendant ma formation à Edwards, et c'est tout ce que j'aurais à dire sur ce point particulier. Il y a un point qui m'a été soulevé, plutôt aujourd'hui, à propos d'un article dans un magazine qui disait que j'ai dit qu'un certain officier m'avait dit que les négros ne devraient même pas être en uniforme. Et sur ce point précis, je voudrais vraiment souligner que personne ne m'a jamais dit cela verbalement.
Vous ont-ils déjà dit quelque chose comme ça ?
Eh bien, je refuse de commenter sur ce point.
Êtes-vous maintenant de fait complètement mis à l'écart du programme d'astronaute ? Y a-t-il une chance pour que vous y retourniez ?
Je ne sais pas, je n'en ai aucune idée.
Well, my name is Ed Dwight. I'm from Kansas City, Kansas, which is.
Je m'appelle Ed Dwight. Je viens de Kansas City, au Kansas, qui est l'un des États à l'est d'ici, au Colorado. Et j'ai rejoint l'Air Force à l'âge de 18 ans. Et je suis devenu pilote dans l'Air Force. 7 ans plus tard, j'ai été sélectionné pour être le premier candidat astronaute afro-américain. Mais je ne suis pas allé dans l'espace. C'était en 1960. J'ai été nommé par le président Kennedy pour être le premier astronaute afro-américain. Et je n'ai pas, encore une fois, je ne suis pas allé dans l'espace. Mais j'ai quitté l'armée, quitté l'Air Force, et je suis devenu sculpteur. Et donc, je suis sculpteur depuis 50 ans, et partout aux États-Unis, je fais des mémoriaux sur l'histoire des Noirs. Et c'est ce que je fais depuis les 60 dernières années. Et récemment, après 60 ans de travail, en tant que sculpteur, on m'a demandé si je voulais aller dans l'espace. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé dans l'espace et je suis devenu la personne la plus âgée à avoir jamais voyagé dans l'espace. Et donc, voilà où j'en suis aujourd'hui.
That's where I am right now.
Seconde partie. Artiste sculpteur, réflexion sur l'histoire afro-américaine, vol spatial et héritage.
Et j'avais plusieurs entreprises quand j'ai quitté l'Air Force. J'avais environ 3 ou 4 business, tu sais. Et puis plus tard, j'ai toujours été un artiste à côté, tu sais, depuis que je suis gamin. Et donc, à 45 ans, ça semble fou, mais on m'a offert une opportunité de devenir sculpteur.
Eh
bien, en fait, je ne faisais pas seulement de la sculpture, je peignais. J'ai peint en tant qu'artiste toute ma vie. Et j'avais obtenu une bourse d'études à la fin du lycée, pour l'Institut d'art de Kansas City. Je voulais être un artiste et pas un pilote. Jusqu'à ce que j'ai découvert qu'ils laissaient les Afro-Américains voler. Sur la une de l'un des journaux, il y avait un pilote noir de ma ville natale et qui s'était fait abattre en Corée. Et je me suis dit, oh mon Dieu, je ne savais pas qu'il laissait les noirs voler, vraiment voler. Et donc j'y suis allé, j'ai postulé pour la formation de pilote. Et j'ai réussi tous les tests. Et c'est pourquoi j'ai fini par devenir pilote de l'Air Force. Parce qu'en tant qu'artiste, je ne savais pas comment je pouvais gagner ma vie en tant qu'artiste, d'accord ? Et évidemment, si je rejoignais l'Air Force, je pouvais prendre ma retraite 20 ans plus tard, prendre ma retraite et gagner ma vie, gagner de l'argent et faire toutes ces choses, tu sais. Et c'est pourquoi j'ai laissé l'art de côté. Mais j'ai continué à peindre tout le reste du temps. J'ai continué, tu sais. J'ai continué à pratiquer la peinture parce que c'était tellement naturel pour moi, tu sais. Et tu me demandes pourquoi j'ai choisi la sculpture. Parce qu'avec la peinture, ton public est limité. Tu dois exposer à l'intérieur des musées. Et avec des accrochages au mur, et pour que des gens aillent dans les musées. C'est limité par rapport aux gens qui ne vont pas dans les musées. Mais l'art public, c'est différent, parce que cela attire les gens qui juste passent par là, et les gens qui passent en voiture, et ils peuvent le voir. Mais c'était un meilleur support pour raconter les histoires que je voulais raconter. Et si j'avais fait ça avec la peinture, tout un tas de gens ne l'auraient pas vu. Seules les personnes qui vont dans les musées le verront. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fini par choisir la sculpture. Mais l'autre réponse facile à ça, c'est que c'était tellement naturel pour moi. Je n'ai jamais eu de leçon d'art au début de ma vie. Je veux dire, où quelqu'un me dit que c'est comme ça qu'on sculpte, etc. Parce que je suis autodidacte. Le gouverneur, le vice-gouverneur Brown, oui, c'est lui qui m'a fait découvrir l'art. C'est lui qui m'a appelé à venir dans son bureau. Il avait vu des œuvres d'art que j'avais faites pour chez moi. Et il m'a appelé dans son bureau pour faire une sculpture de lui. Et je n'avais jamais vraiment sculpté avant. Et donc, je lui ai dit non, parce que je n'avais jamais fait ça avant. Et il m'a encouragé à me débrouiller pour apprendre à le faire. Il m'a dit, va à la bibliothèque. Je lui ai dit, je ne sais pas comment faire ça, je ne sais pas sculpter. Alors il m'a dit, va à la bibliothèque, prends un livre et apprends par toi-même. Et c'est ce que j'ai fait. Et je pouvais, avec ma formation d'ingénieur, je pouvais percevoir comment tout cela était structuré, comment les visages sont structurés. Mon passé d'ingénieur m'a aidé à concevoir les visages. Donc cela m'a facilité la tâche parce que je pouvais utiliser l'ingénierie pour faire le visage de quelqu'un. Parce que chaque visage se construit dans certaines limites. Tu sais, la largeur de ton œil correspond au même espace que la distance entre tes yeux. C'est la même distance, tu sais. Et tes oreilles, le bas de ton nez et le haut de tes sourcils correspond à la hauteur de tes oreilles. Et donc j'ai étudié tout ça. C'était facile pour moi de le percevoir, de percevoir le corps humain. Et de le faire grâce à l'ingénierie pour m'assurer que c'était juste. Parce que ça nous plaise ou non, avec ta taille, tu sais, il y a certaines échelles sur la longueur de tes bras, la largeur de tes épaules, et je peux mesurer tout cela. Et chaque être humain a son lot de dimensions spécifiques, que ça nous plaise ou non. Et donc, c'était facile pour moi de sculpter, de faire des êtres humains, et donc je pouvais percevoir cela. Et cela a rendu les choses faciles. Je n'avais pas à m'inquiéter que quelqu'un ait les bras trop longs ou les mains trop grandes, tout ça. Et j'ai passé beaucoup de temps à étudier cela. Et le grand public ne sait pas tout ça. Donc sculpter était plus naturel pour moi. Et comme je disais, la peinture a des limites. La sculpture n'a absolument aucune limite. Vous pouvez le faire à l'intérieur, à l'extérieur, ou peu importe. Et c'était la première sculpture que j'ai faite dans ma vie, de cette manière. Une fois que j'avais fini celle-là, il m'en a proposé beaucoup d'autres à faire, tu sais. Alors je me suis dit, bon, peut-être que c'est ce que je devrais faire. Et la raison qui m'a été donnée à pourquoi je devrais le faire, c'est parce que les Noirs en Amérique n'avaient aucune histoire sur ce qu'ils avaient fait en Amérique, tu sais. Parce que les Blancs ont découvert l'Amérique, les Noirs sont venus ici en tant qu'esclaves, tu sais. Et il n'y avait aucune raison pour la population blanche majoritaire de faire des statues ou d'enregistrer tout ce que les esclaves ou les anciens esclaves avaient fait. Je veux dire, pourquoi s'embêter, tu sais? Et donc, on m'a offert l'opportunité de faire des sculptures pour raconter une autre histoire des Afro-Américains noirs en Amérique.
African-Americans in America. What ended up happening? A lot of people came to me.
Ce qui a fini par arriver, beaucoup de gens venaient me voir et imaginaient que parce qu'il y avait beaucoup d'artistes qui sont homosexuels et en voyageant, ça avait beaucoup à voir avec ma taille. Ils m'ont accusé et certains étaient déçus que je n'étais pas homosexuel. Et j'ai un peu été emporté là-dedans contre mon gré. L'idée que parce qu'il y avait tellement d'artistes dans le secteur de l'art, dans l'histoire aussi, qui étaient de fait homosexuels, donc le préjugé était que c'est la seule chose à laquelle je peux penser. C'était d'être accusé d'être homosexuel, tu sais. Et je m'étais un peu énervé contre ça. Je disais, qu'est-ce qui te fait penser que je suis homosexuel? Et puis, dans beaucoup de mes expositions, quand je faisais des expositions en galerie, beaucoup d'homosexuels venaient. Et quelques-uns d'entre eux se battaient pour moi. Et j'ai vu ces gars se battre. Qu'est-ce que vous faites? Et ils se battaient pour savoir qui allait me ramener à la maison. Et j'ai dit, je ne suis pas gay. J'ai dit, je ne rentrerai pas à la maison avec un seul d'entre vous, les gars. Ok, alors arrêtez ça. Tu sais, ce genre de choses a arrivé. Mais pour ce qui est de moi, disant quoi que ce soit contre les homosexuels, toute cette idée, peu importe que je me défende ou non, mais oui, j'avoue que c'est souvent arrivé que des gens partaient du principe que j'étais homosexuel. Et certains d'entre eux étaient vraiment fâchés que je ne le sois pas, tu sais. Et donc, il faut tenir ça en compte. Et peut-être ma défense de dire absolument pas, peut-être que ça fait croire que je n'aimais pas les homosexuels ou quelque chose comme ça. Mais tu sais, mais mince, si tu es accusé de quelque chose que tu n'es pas, c'est juste remettre en question la vérité.
Et attendu qu'Ed Dwight, malgré l'adversité, soit devenu l'un des sculpteurs les plus prolifiques de l'histoire et de la culture afro-américaine. A été chargé de créer plus de 130 monuments et mémoriaux de sculptures à travers les États-Unis et le Canada, alors qu'il opérait depuis son atelier de la belle ville de Denver au Colorado. Et attendu que la ville et le comté de Denver se joignent à la célébration de la riche carrière d'Ed Dwight et font de lui une source d'inspiration et un modèle pour beaucoup de personnes. Par conséquent, moi, Michael B. Hancock, maire de la ville et du comté de Denver au Colorado, en vertu de l'autorité qui m'est conférée, proclame officiellement par la présente que le 4 novembre 2022 soit connu sous le nom de la journée Ed Dwight.
Donc, vous avez fait énormément de sculptures et d'hommages à l'histoire afro-américaine au cours des dernières décennies de votre vie. Environ 20 000 pièces de galeries, c'est ça? Et vous venez de me dire 132 mémoriaux à travers toute l'Amérique du Nord. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important pour vous. Est-ce que vous diriez que c'est une manière pour vous de lutter contre le racisme dont vous avez souffert toute votre vie? Et cette persévérance, cette détermination que vous gardez en faisant ces culture encore aujourd'hui, et en avoir fait pendant autant d'années, est-ce que c'est pour vous, non pas une vengeance, mais une façon de, comment je pourrais dire...
Ok, bien non, dans la vie, tu sais, tu fais des choses, tu sais, les gens font des choses par nécessité, parce que combien de sculptures est assez? Tu sais, tu remontes dans l'histoire et certaines des plus grandes sculptures, personne ne les remet en question. Tu sais, personne ne remet en question Picasso, par exemple. Ce type a fait des milliers et des milliers d'œuvres d'art et a même fait un hommage à lui-même. Mais dans mon cas, c'est probablement un travail infini. Et le marché, si le marché demande plus, alors qu'est-ce que tu fais? Tu dis, bon, d'accord, ça suffit, je ne vais pas en faire plus. Et la réponse est non. Parce que à ce jour, si je pouvais ajouter 20 ans à ma vie, je ferai encore 130 autres sculptures et mémoriaux à cause de la demande. Quasiment à chaque fois que je décroche le téléphone, c'est quelqu'un qui veut que je fasse un autre mémorial. Toutes les villes qui m'ont appelé le font. On en a trois que nous voulons que vous fassiez. On en a deux que nous voulions que vous fassiez, tu sais. Et je pourrais continuer comme ça pour les 5 prochaines années en faisant 50 autres mémoriaux. Tu sais, si j'avais tout mon ancien personnel ici et que j'avais toute ma grande entreprise, que j'avais fut un temps, tu sais, il y a quelques années, parce que j'avais beaucoup de gens, beaucoup d'espace, je pouvais tout gérer. J'avais mon propre terrain, bien sûr. Et je pouvais travailler sur 3 ou 4 projets à la fois. Et c'est comme ça que j'en ai fait autant, parce que je ne les faisais pas un par un. Je travaillais sur 3 projets avec 3 villes différentes. Je travaillais sur 3 mémoriaux différents, 3 villes différentes, 3 sujets différents, tu sais. Et je l'ai révélé en inauguration. Et ensuite, je commençais à travailler sur 3 autres.
Est-ce que vous pensez que vous l'auriez fait avec le même dévouement si vous aviez été dans l'espace dans les années 60?
Non, non. Et c'est ça la clé de toute l'histoire. Parce qu'une fois que... Enfin, je n'arrête pas de le dire dans ma tête, je suis content de ne pas être allé dans l'espace. Parce que si j'étais allé dans l'espace, j'aurais vécu de ça pour le restant de ma vie, en faisant des discours, des apparitions publiques, et tu sais, en parlant aux enfants. Et la plupart des astronautes, tu sais, 23 astronautes noirs, et la plupart d'entre eux ne font rien.
Oui, c'est vrai, c'est exactement ce que presque tous les astronautes, anciens astronautes font.
Exactement, tu sais, ils disent juste « je l'ai fait, je ne le ferai plus ». Et bien sûr, ce n'est pas mon cas. Je suis content de ne pas être allé dans l'espace il y a 60 ans. Depuis, tu sais, j'ai fait 132 mémoriaux et monuments à l'accomplissement des Noirs en Amérique, pour que les gens puissent aller dans des parcs, de Capitole et des places de ville et voir de l'art qui est du grand art et pas un petit truc de grandes choses que, tu sais, les Afro-Américains ont fait en Amérique. Et ça a eu beaucoup de succès. J'en ai partout dans le pays. Et en ce moment, je travaille sur un mémorial en Normandie pour les soldats noirs qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes en train de concevoir un mémorial qui ira sur les plages de Normandie et qui honorera les soldats noirs qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le plus gros problème est de collecter l'argent, parce que ça va coûter plusieurs millions de dollars pour pouvoir le faire. Et donc, nous discutons avec le gouvernement français et le Pentagone d'un autre côté. Nous avons des conversations à propos du mémorial pour s'assurer qu'il est historiquement exact, pour nous assurer qu'il est correct et pour nous assurer que nous avons l'espace pour le mettre. Et on m'a présenté un site là-bas sur lequel nous travaillons, trois sections, une pour les médecins des plages de Normandie. Il y a eu quelques médecins noirs sur les plages de Normandie qui ont sauvé 82 vies. Et puis, il y avait les aviateurs, les Tuskegee Airmen, qui ont combattu là-bas. Et ensuite, il y avait un autre groupe de Noirs. Ça s'appelait le Red Ball Express. Ils fournissaient tout. Ils étaient au nord de la Normandie. C'est là qu'on en a perdu certains. Ils fournissaient toutes les munitions, le matériel, les fournitures médicales, la nourriture et d'autres trucs pour les soldats alors qu'ils traversaient la France pour se rendre en Allemagne. C'est l'un de mes grands projets. J'en ai deux ou trois sur lesquels je travaille, mais oui, c'est l'un des grands projets sur lesquels nous travaillons en ce moment.
Vous écoutez toujours Radio Campus et nous sommes ici à Denver au Colorado avec Ed Dwight, ancien pilote d'essai, premier candidat astronaute noir et maintenant sculpteur et artiste.
Let's talk about the flight to space.
Parlons maintenant du vol spatial que vous avez effectué à bord de la mission NS-25 de Blue Origin. C'était le 19 mai 2024 parce que, en effet, vous êtes finalement allé dans l'espace. Je peux même voir que vous portez un t-shirt Blue Origin en ce moment même.
Ah oui, je n'avais même pas remarqué.
Pouvez-vous nous dire comment tout ça est arrivé, c'est-à-dire l'organisation de tout ça? Est-ce qu'on vous a appelé au téléphone un jour ou
non.
Comment ça s'est passé exactement?
Non, ça a commencé à s'organiser. En fait, dès que j'ai commencé à faire de l'art, je me suis immédiatement impliqué avec la NASA. Je faisais de l'art pour la NASA. Ils ont commencé à nommer des astéroïdes en mon honneur. Ils ont commencé à utiliser mes sculptures, à les envoyer dans l'espace. Mon art était sur la mission Orion, tu sais. Et quand les astronautes revenaient, ils venaient immédiatement dans mon atelier et m'apportaient un drapeau ou me rapportaient mon art que j'avais envoyé dans l'espace. Et j'ai dû signer des papiers attestant que je ne vendrais pas cette œuvre d'art parce qu'elle avait été dans l'espace. Et donc la NASA, il y a eu un lien avec la NASA pendant tout le temps où j'ai été artiste, ce qui est un peu étrange. Et la NASA m'a honoré à maintes reprises. Donc, tout a commencé quand Charlie Bolden est arrivé à la tête de la NASA. Il a été le premier noir, évidemment, à diriger la NASA. Et bien sûr, la conversation a alors commencé sur comment allions-nous envoyer Ed dans l'espace. Et ça a duré pendant des années. Tu sais, on doit envoyer Ed dans l'espace. Et la NASA n'avait aucun moyen pour moi de le faire à cause de la façon dont la NASA était structurée pour que je puisse arriver à la NASA et faire un vol spatial, même sur la navette. Ce n'était pas possible. Et donc, une fois que ces plateformes ont été autorisées, ces plateformes civiles ont obtenu une licence comme Blue Origin et les autres. Alors, tout le monde a commencé à parler de laquelle nous devrions utiliser pour envoyer Ed dans l'espace. Et donc, ça a commencé et nous avons beaucoup discuté, encore et encore. Et Leland Melvin, astronaute afro-américain, lui et Charlie Bolden, qui était le chef de la NASA, se sont réunis et ont dit, Nous devons commencer à négocier et envoyer aide dans l'espace. Et donc j'ai accepté. Le truc, c'est qu'ils pensaient que je n'allais pas être d'accord, tu sais. Et puis quand j'ai dit oui, faisons-le, ce n'était plus qu'une question de quand, dans combien de temps on pourrait l'envoyer là-haut. Et donc ça a commencé à se mettre en place.
Mais c'était vraiment impossible pour la NASA de vous faire voler dans la navette à cette époque, parce que John Glenn, par exemple, le premier Américain en orbite, lui est retourné dans l'espace à bord de la navette alors qu'il avait autour des 80 ans ou presque à cette époque.
Oui, tu sais, j'ai pensé à ça, mais ce qui était facile pour John Glenn, c'est qu'il ait été à la NASA et qu'il était déjà passé par là. Et la majorité de tout ça était à cause de l'entraînement. Comment tu formes quelqu'un à aller dans l'espace? Et dans ce cas, tu as John Glenn, qui était vu comme un astronaute héroïque du point de vue de la communication. Il était là tôt dans l'exploration spatiale et ça semblait tout à fait naturel pour lui de juste enfiler sa combinaison et d'aller dans l'espace. Mais dans mon cas, je n'avais pas rempli toutes les conditions de santé que la NASA exigeait. Et on a dû choisir une plateforme qui ne dépendait pas de la santé, parce que tu n'allais être dans l'espace que quelques minutes. Donc si tu as un mauvais cœur, il n'allait pas être affecté. Ou si tu as d'autres problèmes, la mission était si courte qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter au niveau de la santé. Et tu sais, en se baladant avec moi, je n'agissais pas comme si j'étais un vieil homme. Et ils ont imaginé que, eh bien, Dwight, il court partout pour construire des mémoriaux, et le gars est tout énergique, alors allons-y. Et donc nous l'avons fait. Je n'étais pas vraiment inquiet par tout ça, parce que j'avais traversé tellement de choses dans ma carrière de pilote d'essai. Je veux dire, j'avais défié la mort. Il y a eu 5 occasions à part entière où j'aurais dû être mort, parce que j'ai échappé à la mort à 5 reprises en tant que pilote d'essai, d'accord? Et donc, cette idée de craindre de mourir et ces choses-là, ça ne me dérangeait pas, parce que je ne pensais pas que j'allais vivre au-delà de 50 ans. Parce que 3 ans après que nous sortions de l'école de pilote d'essai, ces 17 gars, cette photo que tu m'as montrée, j'ai une copie de cette photo dans mes archives. Et j'ai une note indiquant quand ils sont morts. En l'espace de 3 ans, seulement 7 d'entre nous étaient encore en vie. Et il y a une petite flèche avec la date de la mort de ces gars. Et j'avais cette photo accrochée au mur de mon autre atelier pendant très longtemps pour me le rappeler. Donc la mort ne m'a jamais dérangé, parce que je me disais que j'aurais dû être mort il y a longtemps. Donc je n'ai jamais eu peur de ça. Et donc, pour aller dans l'espace, peu importe la raison, je veux dire, c'était juste quelque chose d'autre. La seule chose nouvelle, c'était d'où l'énergie venait. Au lieu que l'énergie soit derrière moi, comme dans un avion, là, elle était en dessous de moi. Et quand la fusée a décollé, tout d'abord, ça m'a fait peur, parce que je ne pensais pas que ça allait être aussi fort. Et on avait ces gros bouchons d'oreilles, ces bouchons d'oreilles personnalisés qu'ils ont fait pour nous, tu sais. Mais c'était incroyable, le bruit. Et on aurait dit que tout avait explosé. Tu sais, j'étais un peu inquiet à ce sujet. Je me disais, attends une minute, ce foutu truc vient d'exploser juste en dessous de moi. Mais une fois que la fusée montait dans les airs, j'ai rationalisé et je me suis dit, ok. C'était nouveau pour moi, parce que je n'avais jamais été au sommet d'une fusée. Et puis la seconde fois où ça m'a surpris, c'est quand la capsule a quitté le booster et qu'il y avait des boulons explosifs. Et mon siège était juste au-dessus de l'un des boulons explosifs qui explose et sépare la capsule de la fusée. Et quand ça s'est activé, ça m'a fait super peur parce que je ne m'y attendais pas. Mais après avoir vu ce qui se passait, il y a eu deux explosions. Et après, quand j'ai vu le booster dériver comme ça, c'était juste incroyable pour moi. Je me suis dit, bon sang, ces gars-là doivent continuer, c'est vraiment cool. Comment ils ont conçu ça pour que la capsule continue à monter et que le booster dérive comme ça. Ce qui m'a étonné, c'est comment il le maintenait parfaitement droit de haut en bas. Il s'est simplement éloigné et a commencé à descendre. Puis la capsule a commencé à monter en 0G et tout ça. C'est arrivé après ça. Et puis quand nous avons quitté l'atmosphère, c'était aussi stupéfiant pour moi parce que je pensais que l'atmosphère serait progressive et que la lumière serait progressive dans sa transition avec l'espace. Et ce n'est pas le cas. C'est une ligne nette qui coupe l'atmosphère dans l'espace. Et voir cette ligne, c'était tout simplement incroyable pour moi.
Vous avez été cité comme disant que l'Air Force vous avait discriminé pour le programme d'astronaute. J'ai vu ça avec l'agence de presse ce matin. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou est-ce que la NASA fait la sélection des astronautes ?
Eh bien, je ne me souviens pas avoir jamais dit que l'Air Force m'a discriminé dans le programme d'astronaute parce que l'Air Force n'a pas de programme d'astronaute en tant que tel. Nous avons un programme spatial militaire dans les cartons, je crois. Mais à l'heure actuelle, nous n'avons pas de programme spatial militaire. En ce qui concerne la NASA, ils ont leur propre programme, ils ont un processus de sélection qu'ils font passer à tout le monde. Et en ce qui concerne les rouages internes, en ce qui concerne les raisons pour lesquelles je ne suis pas à la NASA, je ne ferai aucun commentaire là-dessus.
Capitaine, quel est votre statut officiel aujourd'hui ?
Je suis pilote d'essai expérimental à la base aérienne de Wright-Patterson, dans la section bombardier.
Est-ce la position que vous vouliez ?
Non.
Qu'est-ce que vous vouliez ?
Eh bien, je ne ferai pas de commentaires là-dessus non plus.
Avez-vous l'impression que ce qui vous est arrivé est un recul pour les opportunités de droits civiques dans ce pays ?
Non, je préférerais ne pas commenter ça.
Everything that's happened to me happened for a purpose.
Tout ce qui m'est arrivé est arrivé dans un but. Tu sais, ma sélection là-dedans, il y avait un but derrière cela. Et finalement, l'objectif a été atteint. Parce que nous avons 23 astronautes noirs qui ont suivi. Et ils ont réussi. Donc toute l'idée que les noirs aillent dans l'espace, ce qu'ils pensaient à l'origine, la règle c'était pas question, c'est des trucs de blanc, pas question. Il n'y a aucune place pour que des noirs soient impliqués là-dedans. Parce que c'est un vrai truc de héros, c'est de la vraie découverte, et nous ne pouvons pas laisser les noirs être impliqués dans de vrais trucs, tu sais. Et donc ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait, tu sais, ma présence dans ce programme a vraiment remis en question ce « est-ce que c'est vrai ?» L'espace appartient aux Blancs. Et il a été prouvé que dans les bonnes circonstances, et en faisant faire la bonne formation aux Noirs, mais pensez à ça, il y a eu 20 ans à partir du moment où ça a été annoncé que le premier noir allait partir dans l'espace. Pensez à ça, tout ce temps, entre le moment où le président m'a annoncé, et puis Guyon Bluford, le premier afro-américain allant dans l'espace, c'était 20 ans quasiment au mois près. Et c'est vraiment effrayant ce qui s'est passé. C'est que cette période de 20 ans, suffisamment de Noirs ont été éduqués. Ils ont eu tout ce dont ils avaient besoin pendant cette période de 20 ans. Mais il a fallu 20 ans pour que cela se produise, pour qu'ils aillent dans les bonnes écoles, pour obtenir les bons temps de vol et pour obtenir la bonne atmosphère pour que l'Amérique permette à un Noir d'aller dans l'espace. Donc c'est ça qui est vraiment important. que les gens oublient à propos de ma sélection là-dedans. Et ça a donné à l'Amérique le temps d'entraîner un groupe de Noirs pour aller dans l'espace. Mais cela devait bien commencer quelque part. Et mince, c'est moi qui ai commencé. Alors j'ai rempli mon objectif.
I'm the most well-known black person that nobody's ever heard of.
Je suis la personne noire la plus connue dont personne n'a jamais entendu parler. Et donc, il y a beaucoup de gens qui essayent de changer cela, qui disent « Vous connaissez ce gars ?» Et c'est seulement de ma faute, parce que je n'ai jamais fait de publicité, autant que si j'avais eu un agent publicitaire pour tout ce que j'ai fait. S'ils avaient commencé à me faire de la publicité pendant ces 50 ans, j'aurais été, tu sais, l'artiste le plus connu de l'histoire. Mais cela ne s'est pas produit. Et tout est de ma faute, parce que je ne faisais pas de l'auto-promotion. Je me fichais que les gens le sachent ou non, mais je faisais juste ce que je devais faire. Et ne pas me promouvoir pendant que je faisais tout ça. Parce que chacun de ces grands mémoriaux aurait dû être un événement. C'était partout dans les nouvelles. Ed Dwight révèle une autre sculpture, dévoile un autre mémorial. Et j'aurais pu le faire si j'avais eu un agent publicitaire pendant toutes ces années, ces 50 ans. Et les gens auraient pu me suivre. Et tout ça, grâce à un réseau de bouche à oreille naturel. Tout ce temps, j'aurais pu avoir des ateliers ouverts, où les gens auraient pu venir n'importe quand, et prendre des photos, et tu sais, des trucs comme ça. Je n'ai rien fait de tout cela. C'est juste, c'est arrivé comme ça. Je veux dire qu'il y a des gens qui essayent de changer ça maintenant, parce qu'ils veulent. Surtout après mon dernier vol spatial, il y a beaucoup de gens qui veulent changer tout cela. Et puis tu sais, tout le monde aime la découverte. Tu sais, tout d'un coup, l'Amérique et le monde ont découvert qu'il y a un gars à Denver, au Colorado, qui a fait tout un tas de mémoriaux. Et ce même gars est allé dans l'espace. Waouh ! Ça vient d'où ? Et qui est ce gars-là ? Et pourquoi est-ce qu'on ne le connaissait pas avant ? Tu sais ? Et c'est de ma faute. Je n'ai pas fait le travail de faire connaître ce que je faisais pendant toutes ces années, parce que je faisais des choses qui étaient notables et dignes d'intérêt. Tout ce que je faisais, chaque discours que je donnais avait un intérêt médiatique. Chaque mémorial que je terminais avait un intérêt médiatique. Mais ça n'apparaissait pas dans les médias, tu sais. Mais maintenant, cela ne me dérange pas au point que je laisse le monde faire ce qu'il a à faire, ce que le monde pense, ce qu'il doit faire plutôt. Et si je suis là pour y assister, très bien. Tu sais, mais je vais mourir comme tout le monde, être enterré. Et peut-être que quelqu'un dira que les gens se souviendront, et peut-être que quelqu'un d'autre ne le fera pas, tu sais. Mais j'ai accompli mon but sur Terre. C'est la clé de toute l'histoire, c'est que j'ai été mis ici dans un but, et j'ai à peu près accompli ce but, tu sais. C'est plus que ce que beaucoup de gens peuvent dire.
Ok, donc juste pour résumer, vous étiez d'abord l'un des meilleurs pilotes d'essai aux États-Unis, puis sélectionné comme premier candidat astronaute noir à la demande de l'administration Kennedy, puis Kennedy est mort et le projet est tombé à l'eau. Vous avez été ensuite forcé de quitter l'Air Force à cause du racisme avant d'arriver à la NASA. Après l'Air Force, vous avez changé de carrière et êtes revenu à vos racines d'artiste en devenant un célèbre sculpteur que vous êtes encore aujourd'hui en rendant hommage à des figures de l'histoire afro-américaine. Et vous êtes enfin allé dans l'espace, il y a quelques mois, à bord de ce que l'on appelle un vol touristique. Votre vie est assez unique. Je pense que personne d'autre sur Terre n'a vécu ce que vous avez vécu. En 2009, vous avez même écrit votre propre autobiographie, Soaring on the Wings of a Dream, que nous avons actuellement avec nous. Mais c'était il y a 15 ans et vous êtes allé dans l'espace depuis. Donc avec tout ça, ma toute dernière question serait, comment aimeriez-vous qu'on se souvienne de vous? Quel héritage aimeriez-vous porter sur l'avenir, sur les gens? Si vous aviez un dernier message à adresser à l'humanité, quel serait-il?
Tu sais,
je pense à ça. Mais tu sais, les gens se feront leur propre opinion. Et il n'y a rien que je puisse faire. Parce que maintenant, c'est très difficile pour moi. Parce que je cours partout. Je pars dans tout le pays pour obtenir les honneurs d'une ville et obtenir des prix. Et ça ne fait que commencer. Et tu sais, et je leur dis, d'accord, merci de m'honorer. Mais mon héritage, j'ai une centaine et quelques œuvres d'art public. Mon héritage qui restera dans la tête des gens après ma mort. Chacune de ces œuvres d'art que j'ai faites, ça va rappeler aux gens, Ed White a fait ça, tu sais. Et donc, c'est autoréalisateur, je veux dire. C'est quelque chose qui sera toujours naturel pour les gens d'aller visiter mes mémoriaux. Et ils diront, eh bien, tu sais, ce gars Ed White, il a fait toutes ces choses-ci et là. Mais c'est l'une de ses œuvres d'art. Mais cela va se produire tout seul. Et il n'y a rien que je puisse faire à ce sujet pour changer cela. Mais concernant comment on se souviendra de moi quand je serai mort... tu sais, c'est difficile de comprendre ce que ce gars ressent maintenant et dont tout le monde parle. Mais moi, mort et enterré, cela ne me dérangera pas d'une manière ou d'une autre. Je serai heureux d'en avoir fait assez. Et ces événements isolés, quand quelqu'un a une de mes œuvres d'art chez lui, quand quelqu'un viendra, il dira « C'est une œuvre d'Ed White, au fait, tu sais. » Et donc, j'espère que ma famille se sentira bien à propos de ce qui reste de moi sur Terre. Tu sais, car ils sont associés à moi et ma famille élargie parce que j'ai beaucoup de gens qui sont très très proches de moi. Et ils sont presque comme une famille élargie. Ils s'inquiètent pour moi, ils m'appellent tout le temps. Nelson Mandela en est un parfait exemple. J'ai fait une sculpture pour lui. Il a fini avec 5 de mes sculptures, tu sais. Et il m'appelait une fois par mois, après que nous soyons devenus meilleurs amis. Et voilà ce grand homme qui m'appelait une fois par mois pour me dire « Comment vas-tu? As-tu besoin de quelque chose ?» Et s'il y a quelque chose que je peux faire pour toi, fais-le-moi savoir. Et j'avais ce numéro de téléphone, et peu importe où il se trouvait dans le monde, il m'appelait une fois par mois pour me souhaiter bon courage. Et c'était tellement important pour moi que ce grand homme prenait le temps. Et donc j'ai réfléchi, je me suis penché sur ça. Et pourquoi ce grand homme ferait-il cela? Tu sais, pourquoi prendrait-il le temps d'appeler Ed White? Tu sais, et j'ai eu d'autres personnes qui font le même genre de choses, qui sont vraiment des gens formidables. Ils ne m'appellent pas une fois par mois comme ils le faisaient, mais quand l'occasion se présente, tu sais, et quand ils sont très très fiers et tout ça. Et toutes ces choses, c'est assez important pour moi d'avoir ça pendant que je suis en vie. Et j'espère que ce sera important pour la famille après que je sois parti, parce que le seul souvenir vivant de moi, c'est ma famille. Les gens qui sont très proches de moi, donc c'est ma réponse. Longue, très longue réponse à ta question.
Il y a quelques années, on a demandé au grand explorateur britannique George Mallory, qui devait trouver la mort sur le mont Everest, pourquoi il voulait gravir cette montagne. Il a répondu, parce qu'elle est là. Eh bien, l'espace est là,
et nous allons y aller. La Lune et les planètes sont là également et avec elles, de nouveaux espoirs de connaissances et de paix. La plus dangereuse et la plus incertaine aventure que l'homme ait jamais connue. Je vous remercie.
Ce programme est disponible en replay sur notre site internet orleans.radiocampus.org.
Thank you. I'm crying tears at funerals bleak. On top's got you beneath pain. See your name in a wreath. Break down when you get that call. Burying friends that you met in school. Swinging blades like jewels. Got a smile for your mom, that cool. Beat up and run down. Still run circles around me somehow. Straight stare dumbfounded. Black suit throwing dirt in the ground. Are we paying for sins? Still don't know where to begin. See right through my glass window. Same way see through pain and a grin. Shit, I just can't get past blind. Finding my way in the dark, way in the dark. See with the shark street, fraught my heart. Going nowhere, nowhere good on my own. See bullets flying through cold air. Ring out like my ringtone. Close my eyes, I see colours flash. On the kitchen plate with a ton of ash. Bad dreams, I can't run them back. Fell out the sky, see me where I land. You hold me down like burden on my back, no, I don't sound right. Shoot me out the sky and I spiral right back on the ground like